Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit.
Étonnante histoire que nous allons débriefer maintenant avec celui qui a porté l'accusation dans ce dossier, le procureur général du canton de Vaud, Éric Côtier. Alors, première question, monsieur Côtier, François Légeret, qui est toujours en prison alors qu'il est continue de dire qu'il est innocent, vous n'avez aucun doute?
Je n'ai aucun doute sur sa culpabilité qui a été étayée par un nombre important d'éléments que vous avez mis en évidence dans le récit nécessairement résumé qui vient d'être fait, mais qui figure au dossier et qui ont été analysés en profondeur et en détail par les deux tribunaux qui ont prononcé la condamnation de François Légeret.
Le point faible tout de même, c'est qu'il n'y a pas de preuves matérielles, tangibles, incontestables.
Alors évidemment, si l'on prononce des condamnations, qu'il s'agisse pour d'affaires importantes en termes d'enjeux ou d'affaires moins importantes, que lorsqu'il y a des preuves absolues ou des aveux, encore que des aveux ne signifient pas nécessairement une culpabilité, ce type de jugement-là ne serait pas rendu. Dans tous les systèmes judiciaires, d'une manière ou d'une autre, il y a à un moment donné une place pour la conviction, la possibilité d'écarter un doute lorsque ce doute n'est plus raisonnable. C'est très schématiquement et en résumé ce qui s'est passé dans cette affaire.
Mais le doute, puisque vous l'évoquez, en France, il doit bénéficier à l'accusé. C'est pareil en Suisse?
C'est exactement la même chose.
Et là, a-t-il bénéficié à l'accusé?
Non, le tribunal a considéré qu'il n'y avait plus de doute au terme de l'examen de l'entier du dossier, après l'audition de très nombreux témoins, étant rappelé qu'aussi bien en 2008 à Vevey qu'en 2010 à Lausanne, ce sont près d'une cinquantaine de personnes qui seront entendues par le tribunal criminel composé de 9 membres.
Parce que l'ADN, il n'a pas tort, François Légeret, quand il dit l'ADN sur le ciseau, par exemple, j'ai pu manipuler les ciseaux de ma mère un jour et mon ADN est resté dessus. Donc l'ADN est à peine quelque chose de convaincant.
L'ADN de l'affaire en question, avec de l'ADN de Ruth Légeret sur la poignée des ciseaux, d'ailleurs les ciseaux ont été retrouvés sous le corps de Ruth Légeret, non pas de Marina Studer, et puis l'ADN sur l'autre, à l'autre bout des ciseaux, soit sur la lame des ciseaux, en principe on ne laisse pas d'ADN sur la lame de ciseaux si on les tient par la poignée. Il y a une correspondance qui ne peut pas être prouvée, mais une correspondance quand même intéressante par rapport à la plaie qui figure sur le visage de François Légeret lorsqu'il se retrouve chez lui le jour des fêtes, constatée par son ami.
Dans votre esprit, monsieur le procureur général, quel est le mobile de François Légeret? Résoudre ses problèmes d'argent?
Le problème qui a certainement conduit à ce drame du 24 décembre 2005, c'est le litige financier qui est rappelé dans ce que vous avez mis en évidence. Peu à peu, François Légeret, qui dépense nettement plus qu'il ne gagne, qui certes est un millionnaire, mais un millionnaire aux poches vides, puisque sa mère garde l'usufruit sur la partie de la succession qui n'a pas été divisée, puisqu'en réalité, Simon est sorti de cette succession en prenant sa part. François Légeret vit au-dessus de ses moyens, malgré des revenus très importants, vous les avez rappelés, plus de 200 000 francs, soit plus de 280 000 euros en 2005. C'est clair qu'il est aux abois financièrement parce qu'il n'a pas de liquidité et que son train de vie exige de telles liquidités.
Est-ce qu'on est certain que c'est un crime prémédité? Parce que on peut aussi envisager un coup de sang, c'est-à-dire il vient chez sa mère, il lui demande à nouveau de l'argent, elle refuse un nouveau virement, il s'engueule, il la frappe, et puis après il tue les deux autres parce que elles sont témoins.
Il faut peut-être commencer par rappeler que le 16 décembre 2005, lorsque François est allé rencontrer sa mère chez le coiffeur, ce qui est tout de même assez extraordinaire, c'était dans le but de discuter avec elle de questions financières, ceci à une semaine de Noël. C'est particulier, je crois que ça montre le besoin d'argent extrêmement intense qui anime François.
C'est-à-dire que le 24 décembre, au moment du crime, il sait depuis une semaine déjà qu'elle ne lui donnera pas cet argent. C'est ça.
Ruth Légeret, quand elle est seule, parle volontiers avec François, et puis elle aime énormément François, elle l'a démontré au fil des ans, pas seulement en lui donnant de l'argent, mais parce qu'elle aime celui qui est son fils. Et donc la situation n'est pas aussi claire. En revanche, elle le devient au tout début de la semaine de Noël, soit à partir du 21, quand François reçoit une lettre qui est absolument péremptoire et qui lui dit qu'elle ne lui fera pas de versement. Cela dit, le tribunal n'a pas retenu une préméditation, en ce sens que François serait venu le 24 décembre dans le but de tuer les deux dames qui s'y trouvaient, puis sa sœur lorsqu'elle est rentrée des courses qu'elle avait faites. Le tribunal n'a pas retenu qu'il était venu dans ce but-là, parce que c'est un fait qui n'est pas établi. C'est un fait pour lequel il n'y a pas une convergence d'indices suffisants. En revanche, les deux actions homicides du 24 décembre dans la villa, puis l'élimination froide de Marie-Jo, ça, le tribunal les a retenues.
Alors, est-ce qu'il y a quelque chose, Monsieur Cottier, qui explique ce déchaînement de violence de la part de François Légeret? Parce que il tue sa mère, il tue Marina Studer à coups de poing. Enfin, c'est ce que semble dire le médecin légiste. Il a un passé violent, il y a quelque chose chez lui, il y a une faille qui peut le transformer en monstre capable de tuer sa mère adoptive à coups de poing.
Nous sommes en présence, comme souvent, d'un huis clos. Les traces relevées sur les deux cadavres, comme de nombreuses traces retrouvées dans le sous-sol dans lequel les faits se sont produits, montrent des actes d'une extrême violence. On va retrouver du sang projeté, manifestement à la suite de coups nécessairement violents, puisque ces projections sont très éloignées de l'endroit où les coups ont été assénés. François Légeret va, dans le cadre de l'enquête, faire l'objet de témoignages nécessairement contrastés des personnes qui seront entendues. Certaines personnes font état d'un potentiel de violence important, avec des éclats qui sont survenus de manière très, très forte à certains moments de sa vie. D'autres personnes vont dire qu'elles ne considèrent pas qu'il puisse être capable de tels actes. Ce qui s'est passé pendant le huis clos, seul François Légeret peut encore en parler, puisque ses victimes, évidemment, ne sont plus là pour témoigner.
Il y a quelque chose à chercher dans le contexte de l'adoption, parce qu'on a toujours, une description bienveillante de l'adoption d'enfants étrangers. Est-ce que là, il n'y a pas la trace d'une adoption ratée ?
C'est inévitablement une question qui se pose, compte tenu précisément de ce qui se dit s'agissant des risques d'une adoption. C'est une hypothèse qui a été examiné, il est très possible que François Légeret, très longtemps chéri, chouchou de sa maman, parce que c'est aussi le dernier de cette fratrie de quatre qui comporte deux enfants biologiques et deux enfants adoptés, c'est le chouchou, et à un moment donné, il cesse d'être le chouchou, sa mère lui dit non, vraisemblablement pour la première fois de sa vie. Et ce qui peut éclater à ce moment-là, chez un enfant adopté ou chez un enfant naturel d'ailleurs, chez un enfant biologique aussi, c'est extrêmement difficile de le savoir, de le déterminer. Je pense qu'il y a là une bascule. À un moment donné, François se rend compte que sa maman, pour la première fois, lui dit non. Et là, ce qui peut se produire en termes de réaction, je crois qu'on ne peut que l'imaginer. Mais un déchaînement de violence, c'est clairement parmi les hypothèses possibles dans un tel cas de figure.
Il y a un point qui reste en suspens, c'est la poignée de cheveux qu'on retrouve donc, de cheveux qui sont les cheveux de Marie-Jo. Est-ce qu'on peut envisager qu'il ait volontairement placé cette mèche de cheveux pour accuser Marie-Jo ?
La détermination qui sera faite, enfin l'analyse, l'examen qui sera fait de ses cheveux par les enquêteurs spécialisés de la police scientifique va démontrer que ses cheveux sont en broussailles, en ce sens que toutes les racines des cheveux ne se trouvent pas du même côté, comme dans l'hypothèse qui aurait vu ses cheveux arrachés de la tête de Marie-Jo dans un geste de défense de la part de Ruth Légeret, mais que ça ressemble beaucoup plus aux cheveux tels qu'ils se trouvent sur une brosse à cheveux qui passe dans un sens, qui passe dans un autre sens et qui peu à peu accumule des cheveux qui ne seront pas tous orientés dans la même direction. C'est ce qui a accrédité fortement l'hypothèse de cheveux placés dans la main de Ruth Légeret et non pas arrachés par celle-ci de la tête de Marie-Josée.
Donc ça serait une mise en scène ?
Oui, c'est une mise en scène.
Ce qui veut dire qu'il a un peu de sang-froid au moment où il commet le crime, parce que après il commet des erreurs, il aurait dû faire croire à un cambriolage probablement. Ou alors il voulait désigner nécessairement sa sœur.
Alors écoutez, il a du sang-froid après avoir agi. Savoir quel était son état d'esprit et son état d'agitation, et ce qu'il vivait au moment où il enlève la vie, c'est une chose. Savoir ce qu'il fait ensuite pour tenter finalement, comme le font beaucoup de meurtriers, d'échapper à l'enquête, notamment par une mise en scène, c'est autre chose. Je pense qu'à partir de ce moment-là, il faut faire montre d'un certain sang-froid, mais je n'ai jamais expérimenté personnellement le meurtre ou l'assassinat.
C'est bien de le reconnaître publiquement. Globalement, quand même, il y a un côté très douloureux dans cette histoire, c'est que, quelle famille ? Quel manque d'amour dans cette famille, entre cette mère qui partage pas complètement l'héritage, entre ces enfants qui ne se supportent pas les uns les autres, qui s'accusent mutuellement. Est-ce que vous êtes arrivé, vous, à percer le secret de ce désamour familial ?
C'est un point central, évidemment, de toute cette affaire. J'avais à l'époque utilisé l'image du Monopoly, mais évidemment, parler d'un jeu quand on est en présence de trois personnes qui sont mortes d'actes violents, c'est peut-être un peu léger. Il n'en reste pas moins que ça ressemble beaucoup à ça. Dans une partie de Monopoly, on commence, on est 4, 5 ou 6. C'est ce qui se passe au début de la succession de Charles Légeret. Et puis, Simon, le fils aîné, va sortir de cette succession. Il en va de même de Ramou, le premier des deux enfants adoptés. Et puis après, il reste de moins en moins de personnes. Et on sait que tout au bout, ceux qui restent finissent par se battre entre eux sur le plan de la succession. Je crois que ce scénario n'est pas rare. Il est rare qu'il débouche sur des assassinats, mais il n'est en soi pas rare. Et je crois que c'est ce qui s'est passé dans cette famille. Il y avait énormément d'argent. Il y avait largement de quoi rendre heureux, pour autant que l'argent rende heureux, ce qui est assez incertain, de rendre heureux tout le monde. Mais quand on se bat pour de l'argent, souvent les règles de la raison, nos règles à nous, sur le plan de la raison, ne sont plus appliquées.
Merci, monsieur le procureur général, d'avoir débriefé cette histoire pour nous en direct de Suisse.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.